France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des initiatives et des solutions tous les jours à la mi-journée sur France Inter. Aujourd'hui, nous parlons de chocolat et de café. Consommer local est très important, mais c'est impossible pour ces produits-là. Alors autant essayer, autant que faire se peut, de décarboner le transport de cacao et celui du café. Une entreprise bretonne s'y attelle et elle en profite pour transporter d'autres produits dans des cargos à voile. Elle s'appelle Grain Sail, sail comme la voile en anglais. Les carnets de campagne cette semaine se focalisent sur le Finistère, département tout à l'ouest de la Bretagne, puisque le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un quart d'heure est au Conquet. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Olivier Barraud.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de cette entreprise qui est basée à Morlaix. Énorme casse-tête, non, le transport de marchandises à la voile?
Oui, c'est un casse-tête, surtout qu'on ne le fait plus depuis bien plus d'un siècle. Donc voilà, transporter des marchandises avec des navires à moteur, maintenant c'est très maîtrisé évidemment, mais le faire à la voile, surtout avec des purs voiliers, donc des navires qui n'utilisent quasiment plus le moteur, sauf pour sortir du port et rentrer dans le suivant, c'est forcément plus compliqué. Mais si c'était simple, ce serait pas drôle. Voilà.
Vous avez deux bateaux pour l'instant, un troisième est prévu pour 2028. À quoi ressemblent vos cargos ?
Alors les cargos sont d'abord des voiliers et ensuite des cargos, mais bon, les deux forcément, ils sont aux normes marines marchandes. Donc le premier Grain Sail 1, ça a été un démonstrateur, donc il faisait 24 mètres, alors c'était un gros voilier déjà, mais un très très petit cargo évidemment. Mais il nous a permis d'apprendre énormément sur ce mélange atypique hein, de voilier et de cargo, et ce qui nous a permis de construire Grain Sail 2, qui était deux fois plus long, deux fois plus large, deux fois plus haut. Donc cette fois-ci, c'est un navire de 52 mètres qui pèse à peu près 600 tonnes donc en charge, donc un gros voilier avec 1500 mètres carrés de voile, donc les connaisseurs apprécieront, c'est énorme. Et Grain Sail 3 sera cette fois-ci donc lancé en 2028 et sera deux fois encore plus grand que le 2, donc voilà, on fait x2 à chaque fois, mais également deux fois plus large, deux fois plus haut. Et donc là, on arrivera à 2800 tonnes de charge, donc c'est un navire qui dépassera allègrement les 5000 tonnes, donc voilà, ça devient là un énorme voilier, mais également un gros cargo cette fois-ci, donc... Voilà, on progresse.
C'est important de monter en charge pour que le modèle économique soit viable?
Oui, alors c'est assez essentiel. Alors non seulement parce que on a pas mal de marchandises à transporter, mais également pour des notions de coûts de transport. En fait, tout simplement, on doit trouver une économie d'échelle. Simplement, on peut pas construire d'emblée des très gros navires. Il faut accepter en fait de financer l'apprentissage de la conception, de la construction et de l'exploitation en fait de ces voiliers. C'est pour ça qu'on a commencé par un tout petit de 24 mètres, qu'on est passé par un 52 mètres et que maintenant on va dépasser largement en fait les 100 mètres. Et on a besoin en fait d'apprendre parce que ça reste des sujets compliqués. On ne peut pas acheter un navire comme ça sur étagère dans un magasin. Ça n'existe pas. Donc à chaque fois, c'est une conception de prototype, hein, ce qu'on appelle des one-off. Et donc voilà, on part d'une page blanche et on écrit absolument tout. On dessine, on construit et on exploite. Voilà.
Quel est l'itinéraire de ces bateaux ?
Alors l'itinéraire, là on fait un aller-retour Saint-Malo, New York, ou alors une fois sur deux environ, un crochet au retour par la Guadeloupe ou la République dominicaine, ce qui nous permet d'aller charger nos cafés, nos cacaos qui servent à la production des produits Grain Sail. Et donc on a ouvert maintenant nos cales, donc il y a des entreprises qui veulent décarboner leur transport maritime. Donc c'est ce qu'on a fait avec plein d'entreprises françaises qui exportent le savoir-faire entre autres aux États-Unis. On a énormément donc maintenant de clients qui se pressent pour charger nos cales. Donc c'est plutôt sympa.
On parle d'import-export entre l'Europe et les États-Unis. Évidemment, la question se pose de la bataille douanière qui est en cours en ce moment. À quel point êtes-vous affecté par cet enjeu-là?
Alors disons que ça ne tue pas le match, hein, heureusement, loin de là, mais ça le ralentit, c'est-à-dire qu'on a subi, comme pas mal d'entreprises, donc quelques ralentissements, forcément liés à ces discussions assez ubuesques, hein, finalement. Je pense qu'il y a encore un an, on ne pouvait pas s'imaginer se retrouver dans une situation Pareil à celle qu'on voit là, aux États-Unis. Donc bon, on est obligé évidemment de s'adapter. C'est pas très très confortable. Ça ne facilite pas les choses, mais je pense que les problématiques environnementales hein, seront plus fortes en fait que des décisions politiques très très court terme, qui je pense ne servent pas l'humanité. Ça, c'est moins qu'on puisse dire.
Et puis l'autre enjeu du moment, ce sont les prix. Hein, le cours du cacao et celui du café. La situation est-elle périlleuse pour une entreprise comme la vôtre?
C'est forcément périlleux parce qu'on n'a pas pris 30 à 40% de hausse sur une matière première, on a pris jusqu'à 300 à 400% de hausse. Oui, c'était un peu casse-gueule, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on s'en est sorti. On a finalement, la crise n'est pas totalement finie et il faut pas se voiler la face, mais on a montré une certaine résilience finalement, donc à être capable en fait de gérer cette crise, tant sur notre capacité à acheter donc toujours des produits, mais également à les vendre. Je pense que la marque est maintenant très forte en fait finalement, et donc les consommateurs ont vu forcément des hausses sur les tablettes de chocolat, mais apprécient chocolat et café hein, d'ailleurs, mais apprécient je pense tellement nos produits que ils ont joué le jeu et on les remercie très fortement en fait pour ça. Mais ça va faire partie, je pense, de plus en plus des aléas qu'on va devoir vivre avec des impacts du changement climatique entre autres, mais également des impacts de l'effondrement de la biodiversité, par exemple, qui vont affecter sans doute des rendements de cultures de différentes matières premières. Et donc, avoir un impact sur les prix, je crois qu'il faut bien mentaliser qu'il va falloir faire avec ces variations.
Olivier Barreau, que répondez-vous aux consommateurs et consommatrices qui s'inquiètent de ce qu'on lit depuis quelques jours, hein, à savoir la présence de cadmium dans le chocolat? Le cadmium, je le rappelle, c'est un métal lourd cancérigène.
Alors le cadmium en fait est présent naturellement dans la plupart des sols hein, et donc on le retrouve dans le chocolat, mais on le retrouve dans des pommes de terre, on le retrouve dans le blé, enfin globalement toutes les céréales. C'est une question de priorité en fait sur la santé. Nous on considère en fait que oui, le cadmium à très forte dose peut être un souci, mais c'est pas quand même le cas avec le chocolat. Il faudrait manger des quantités absolument invraisemblables, donc il faudrait vraiment tomber sur des fans absolus de ces produits-là pour que ça pose problème. Notre regard porte plutôt en fait sur les pesticides, sur les produits donc non bio. Là, pour le coup, c'est même à faible dose beaucoup plus impactant, beaucoup plus dangereux en fait que le cadmium. Donc, il faut prioriser un peu tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on peut lire et faire un choix là-dessus.
Du chocolat bio donc, et qui a voyagé à voile. Quelles sont les conséquences sur le bilan carbone du produit?
Ah bah le bilan carbone, c'est relativement simple. En fait, on est capable de le diviser par 10 avec nos navires par rapport à un transport conventionnel maritime. Et on est capable en fait de le diviser par 1000 si on transporte ces produits-là par avion. Absolument tout, hein, y compris un vélo. Lorsqu'on fait du vélo, il y a une émission carbone qui est liée à la fabrication du vélo. Il y a toujours en fait un impact. L'essentiel en fait, c'est de voir si sur l'analyse du cycle de vie, ce bilan en fait reste largement positif. Et c'est évidemment le cas pour des voiliers dont l'impact en fait de la construction pèsera à peu près pour 10% sur le bilan carbone global en fait de l'opération. Donc tout au long de la vie du navire. Voilà.
Est-ce que vous pourriez citer quelques produits qui voyagent dans vos bateaux, en plus de vos chocolats et vos cafés, des produits que vous transportez pour des entreprises extérieures?
Alors oui, on peut transporter des vins, même si là actuellement le marché du vin est assez impacté par les problématiques de Trump, hein, évidemment, mais ça peut être des spiritueux, ça peut être des parfums, ça peut être des produits du luxe, ça peut être des produits pharmaceutiques, des ensembles mécaniques, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de limite finalement, mais on ne transportera pas du Monsanto par exemple, on va pas transporter de Roundup aux États-Unis, ça non, on est ouvert à tout ce qui peut se transporter donc sur une palette. Voilà. Et quand Grain de Sail 3 donc arrivera, cette fois-ci on basculera donc en conteneur et on pourra donc rentrer dans finalement des habitudes encore plus normalisées finalement, parce qu'aujourd'hui on transporte beaucoup plus en conteneur qu'en palette.
Voilà. Il faut préciser que vous n'êtes pas les seuls hein, à pratiquer le transport de marchandises à la voile, mais c'est encore un marché de niche, on peut le dire.
Oui, ça reste évidemment encore un marché de niche, mais comme tous les marchés donc naissants, il faut un peu de temps pour développer la filière. Dans 10 ans, je pense qu'on regardera évidemment les choses très très différemment. Moi, je suis également issu du monde de l'éolien et un peu du photovoltaïque. J'ai travaillé pour les énergies renouvelables il y a encore 20-25 ans. Donc, c'était des marchés balbutiants avec des parts de marché très faibles. Et maintenant, en fait, ce sont devenus en fait des marchés beaucoup plus matures, avec des coûts de production qui se sont plutôt donc effondrés, et avec une part de marché qui devient de plus en plus conséquente. Donc on commence forcément petit, on grossit petit à petit, et quand la filière se développe, et je pense que la marine à voile va vraiment se développer, on arrive petit à petit à des performances très très intéressantes et des sauts technologiques assez réguliers, donc pour arriver à sortir des navires qui, dans 10 ans, seront encore différents de ceux qu'on construit aujourd'hui, forcément.
Puisque vous parlez de grandir, tenez, vous avez créé Grain de Sail avec votre frère jumeau, Jacques Barrault.
Oui.
Est-ce que vous diriez que c'est une entreprise qui a ses racines dans votre enfance, ou en tout cas dans votre histoire familiale ?
Ah oui, c'est absolument certain. Moi, à titre personnel, mais Jacques également un peu. Donc, moi, je suis passionné par le vent. J'ai fait beaucoup de planches à voile, beaucoup de parapente. Je suis saxophoniste aussi, donc je joue des instruments à vent. J'ai fait de la bombarde. J'ai fait mon service au Bagad de l'Anbiwe, donc c'était un mélange de la mer et d'instruments à vent. J'ai développé des parcs éoliens, c'était les premières sociétés que j'avais montées, et puis j'ai découvert en fait il y a 2 ans que l'anagramme de Olivier, ça voulait dire, ça pouvait être voilier, donc là je suis un peu tombé de ma chaise et je me suis dit tiens, il y a vraiment un truc, un truc avec le vent très clairement. Et Jacques, mon frère jumeau, a des compétences que je n'ai pas. On est très complémentaires, en fait, hein, tout simplement. Et moi, je suis plus créatif, entrepreneur. Lui est beaucoup plus dans la gestion, dans les tableaux Excel, etc. Donc là, il est très, très bon, en fait, là-dedans. Et donc, on a vraiment un duo très complémentaire. Et je dirais même un trio avec Loïc Briand, qui s'occupe de la partie maritime.
Je viens de vérifier l'anagramme.
C'est un travail d'équipe.
L'anagramme fonctionne. Hein, Olivier, voilier, l'anagramme est parfaite.
Exactement. Moi, j'avoue que ça m'a vraiment fait... j'ai trouvé ça bizarre, en fait, quand j'ai compris ça. Et je me suis dit, bah, tiens, il y a vraiment un signe, mais ça, c'est sûr.
Mise à l'eau prévue pour 2028, donc, pour ce troisième voilier. Comment vous voyez la suite pour l'entreprise ?
Alors 2028, effectivement, donc mise à l'eau de ce transconteneur donc à la voile, et immédiatement derrière, enfin après à peu près un an d'utilisation et donc de retour d'informations sur la conception de ce Grain de Sail 3, on construira Grain de Sail 4. Donc, nous sommes actuellement en train de terminer donc une levée de fonds et une ouverture de capital donc pour financer ces navires qui coûtent évidemment très cher, et là je n'ai plus moi les capacités à financer tout ça tout seul. Donc voilà, on ouvre le capital. Et donc il y aura un Grain de Sail 4, et puis après d'autres. Il n'y a pas de raison de s'arrêter en chemin. Et l'histoire est, je pense, non seulement belle, mais utile pour l'environnement. Donc on ne va pas se priver.
Grain de Sail, entreprise basée à Morlaix, dans le Finistère. Merci beaucoup, Olivier Barrault.
Merci beaucoup, bonne journée.
Au revoir.